Je sais que les premiers chapitres de Genèse présentent certainement un des obstacles majeurs à la foi aujourd'hui, même pour les chrétiens. Il peut y avoir un certain gêne à assumer ces chapitres de la Bible, puisque cela semble tellement en contradiction avec ce qu'enseigne la science, en tout cas ce qu'on nous dit qu'enseigne la science. Ça semble être tellement en contradiction avec le monde autour de nous. Et beaucoup lisent ces récits et puis disent non, la Bible n'est même pas fiable, et donc j'arrête de lire plus loin parce que je ne peux pas croire Genèse 1 et cette histoire de Dieu qui a tout créé. Mais il faut dire que c'était aussi cette contradiction avec le monde autour de nous, c'était aussi le cas d'Israël à l'époque où Moïse leur donne ce récit, ce livre de Genèse, croyant que Moïse a écrit les premiers livres de la Bible, notamment, et il a donné ces livres de la Bible, il a donné ce récit de la création au peuple d'Israël juste avant qu'ils entrent dans le pays promis, en Canaan. Israël venait de passer 400 ans en Égypte, entouré de toutes ces divinités égyptiennes, tout ce culte égyptien, cette mythologie égyptienne. Ils avaient baigné là-dedans pendant 400 ans. Ils sortent de l'Égypte, ils vont entrer en Canaan. Et là encore en Canaan, il y a une multitude de dieux, une multitude de mythologies, notamment toutes sortes de récits sur l'origine des cieux et de la terre. Et donc l'Égypte avec son panthéisme, son paganisme, et Canaan avec son panthéisme et son paganisme, voilà, ils vont être entourés. Ça, c'est le monde dans lequel se trouve Israël. Et donc, le récit de Moïse, ce récit qui parle d'un Dieu unique, un seul Dieu, un Dieu unique, créateur de tout, eh bien, pour eux, c'était une démarcation totale du monde autour d'eux, de ce panthéisme et de ce paganisme qu'on trouvait tout autour d'eux. Alors, c'est un peu comme nous, c'est vrai, ce récit des origines de la Bible ne cadre pas avec le schéma dominant, en tout cas, que nous propose l'athéisme, que nous propose l'évolutionnisme, que nous propose le scientisme, en tout cas de nos jours, d'un Dieu créateur. Aujourd'hui, la science est devenue la nouvelle religion. Alors, nous aimons la science, nous ne sommes pas contre la science, mais on a fait la science une religion, un Dieu. L'autre, il y avait un musée qui a ouvert ses portes à Toulouse récemment, il y avait des pubs partout, et le pub c'était « Sacré science ». C'était bien trouvé, « Sacré science ». Mais c'est un reflet de comment nous concevons la science de nos jours. La science est devenue sacrée pour nous. Nous l'avons mis à la place du sacré pour non seulement expliquer certains phénomènes, mais pour diriger toute notre vie. Ça, c'est un peu l'histoire récente de l'Europe qui a remplacé Dieu avec la science. Il y avait un mathématicien, Simon-Pierre Laplace, au temps de Napoléon, un brillant scientifique, et il a donc proposé, il a donné à Napoléon un écrit, un livre qui raconte un peu comment fonctionne le monde, et Napoléon a feuilleté ce livre. Il lui a fait la remarque, mais je ne vois pas mention de Dieu dans votre exposé. Et la réponse de Laplace est devenue célèbre. Il a répondu à Napoléon, « Citoyen premier consul, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Et depuis, l'Europe a un peu adopté cette phrase comme devise. Nous n'avons pas besoin de Dieu comme hypothèse pour fonctionner. Alors, il faut savoir que Laplace était croyant. Et il est mort croyant, il a prié pour son fils, il a encouragé son fils à avoir Dieu devant sa pensée, sa tête. Mais pour faire la science, il estimait qu'il n'avait pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Et nous avons pris cette idée et nous sommes allés bien plus loin à notre époque. Mais voilà, malgré le décalage perçu entre la foi et la science, entre la Bible et la science, j'aimerais quand même ce matin vous recommander ce récit de la Bible comme le meilleur récit de nos origines. Ce récit, je le crois être le plus cohérent, le plus satisfaisant, ce récit, c'est celui qui correspond le mieux à ce que nous vivons, à ce que nous sommes, à ce que nous expérimentons. Et ce n'est pas contraire à la science, si on comprend bien le rôle de la science et le rôle de Dieu. Et comme nous avons vu dans la lecture de Genèse chapitre 1, ce récit, si on devait le résumer, ce récit de nos origines, c'est qu'il y a un Dieu bon, tout-puissant, qui fait irruption dans le néant et dans le chaos et dans les ténèbres pour créer la lumière et l'ordre et la bénédiction. Un Dieu bon, tout-puissant, fait irruption dans le chaos, le néant, le vide, les ténèbres, et il met la lumière, l'ordre et la bénédiction. Et je pense que ce que Moïse veut aussi nous laisser avec cette pensée, c'est non seulement il a fait aux origines du monde, mais il peut encore le faire de nos vies, de nos cœurs, ce matin. Il fait irruption dans le chaos, dans le vide, dans les ténèbres, et lui, il met sa lumière, son ordre et sa bénédiction. Voilà ce que nous allons voir dans Genèse chapitre 1. Alors j'aimerais voir, pour découper notre texte, tout d'abord la cause de la création, ensuite l'harmonie de la création, et ensuite l'autorité du Créateur et la bonté du Créateur. Voilà, chacun peut nous encourager, nous donner une belle vision de notre existence, mieux que ce que offre un récit qui dit que tout vient du hasard. Parlons tout d'abord de la cause de la création. C'est l'idée principale du chapitre. Au commencement, Dieu. Dieu est la cause, la source de tout. C'est le mot-clé de ce chapitre, en tout cas. Le mot-clé, c'est Dieu. Il est partout, présent. C'est lui l'acteur principal dans chaque verset. C'est Dieu qui fait tout. Et nous avons donc, d'après ce récit, un Dieu unique, tout-puissant, qui est au-dessus de tout, qui est la raison de tout. Et la science elle-même nous dit que tout doit avoir une cause. Alors, ça reste une grande question, une grande raison de croire à l'existence de Dieu, c'est que tout a besoin d'une cause, et la seule cause, si on remonte jusqu'à l'origine, cette cause, il ne peut qu'être Dieu. Alors, c'est vrai que Genèse 1 met l'accent sur Dieu. Genèse 1 met l'accent sur le « qui », pas forcément le « comment ». Dieu a créé tout par sa parole, miraculeusement, nous croyons. Mais Genèse 1 ne cherche pas à être une explication scientifique, détaillée, technique sur le « comment » de tout. Genèse 1 n'est pas un manuel complet de SVT. Genèse 1 met l'accent sur Dieu. Et c'est déjà la clé pour beaucoup de choses. Genèse 1 n'est pas un manuel complet de SVT. Nous comprenons que la création est un acte surnaturel, un acte miraculeux, un acte divin. Et nous comprenons aussi que la science, pour fonctionner, ne peut pas toujours faire appel au surnaturel, au miraculeux. La science s'intéresse à ce qu'on peut observer, et Dieu même a voulu qu'on observe son monde. Il a mis des lois physiques, des constantes dans ce monde pour qu'on puisse les observer. Donc c'est vrai, la science ne cherche pas à tout expliquer, ne veut pas tout expliquer par le surnaturel. Je vous montre ça. Supposons que je suis prof chrétien de SVT et que je donne un devoir à mes élèves, et sur le devoir il y a cette question: expliquer le cycle de l'eau et les précipitations. Supposons qu'il y a un élève chrétien dans ma classe qui, sur le devoir, sur l'examen, met comme réponse: c'est Dieu qui fait tout ça pour montrer qu'il est Dieu. Point. Moi, prof SVT, je lui donne une mauvaise note. Il a raison, mais en cours d'SVT, Dieu... Même un chrétien peut savoir que Dieu veut qu'on étudie son univers et qu'on réponde avec une réponse scientifique, une réponse qu'il fallait étudier. C'est trop facile de dire c'est Dieu qui fait tout ça pour montrer qu'il est Dieu. Très bien. Maintenant, dans la classe aux côtés, j'enseigne aussi un cours sur la théologie. Et il y a encore un examen ce même jour. Et là, sur l'examen, il y a cette question: expliqué en Jean chapitre 2 comment Jésus, pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin. Là, la bonne réponse que je cherche, c'est Dieu qui a fait ça pour montrer qu'il est Dieu. Si quelqu'un me dit, oui, ce n'est pas un processus où le soleil arrive et c'est la vigne, il y a de l'eau, et puis, là, mauvaise note. Par cette illustration, vous voyez qu'on a besoin de Dieu, on a besoin des deux, on a besoin de la foi et on a besoin de la science. On a besoin de la foi pour expliquer certaines choses, on a besoin de la science pour expliquer les choses. Les deux sont compatibles, ils sont amis. Chose, si on avait soumis le vin que Jésus venait de transformer, si on avait soumis ça aux scientifiques, aux œnologues, quelques heures après, je ne sais pas s'ils auraient pu discerner avec l'observation, avec la méthode scientifique, je ne sais pas s'ils auraient pu discerner que ce vin était de l'eau quelques minutes, quelques heures auparavant. La science n'explique pas tout quand Dieu intervient dans nos vies, quand Dieu fait des choses divines, des choses miraculeuses, la science est limitée, mais ce n'est pas incompatible. Et donc ça montre, une petite illustration montre que la science ne peut pas tout expliquer, notamment la cause ultime. La cause ultime de tout, la source ultime de tout, nous croyons que c'est Dieu. Et même aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas vraiment une réponse. Tout le monde, quand on remonte jusqu'aux origines et qu'on veut expliquer la source initiale, la cause initiale de tout, tout le monde à ce moment fait un pas de foi. On appelle ça Dieu, on appelle ça Big Bang, on appelle ça... Mais tout le monde est obligé de faire un pas de foi à ce moment pour déterminer la cause initiale. Donc la science même n'explique pas la cause initiale de tout. Et nous croyons, Moïse l'affirme, Genèse l'affirme, la Bible l'affirme que c'est Dieu. Une autre chose, par exemple, que la science explique mal encore aujourd'hui, c'est l'apparition, par exemple, de nouvelles espèces, qui est une évolution au sein d'une espèce pour créer toute une diversité d'animaux, ça, personne ne le conteste. Mais l'apparition de nouvelles espèces, ça, la science explique mal, et nous croyons, d'après Genèse 1, que c'est Dieu qui a créé des espèces, chacun selon leur espèce, cette phrase revient souvent, et pour ça, il faut encore un Dieu intelligent, un Dieu créateur, un Dieu puissant pour le faire. L'évolution n'arrive pas à faire ça. Donc, nous croyons, nous revenons, et c'est même scientifique de le dire, qu'il faut une cause première à tout, une cause initiale, et cette cause, c'est pas une force mystérieuse, c'est Dieu, c'est notre Dieu, un Dieu raisonnable, un Dieu intelligent, un Dieu bon. Et je crois que finalement, tout le monde vit comme si c'était le cas, même s'ils disent le contraire, au fond, nous le savons. Parce que l'alternative que de croire que Dieu est la source et la cause de tout, c'est de dire que le hasard, aujourd'hui en tout cas, c'est de dire que le hasard est la source et la cause de tout. Et beaucoup sont satisfaits de cette explication, le hasard est cause de tout. Mais si le hasard est la cause de tout, si le hasard dirige tout, ça veut dire qu'il dirige aussi nos pensées en ce moment. Ça veut dire qu'il dirige les pensées qui sortent de ma bouche, ce sont des résultats de hasard, ainsi que les pensées de quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec moi, ça aussi, c'est le hasard. Donc, si on dit que tout est hasard, rien n'a de sens. On ne peut pas dire que vous avez raison, moi j'ai tort, ou moi j'ai raison, vous avez tort, c'est juste le hasard qui fonctionne. Rien n'a de sens et pourtant personne ne vit comme ça. Personne ne vit vraiment comme si la vie n'a aucun sens. Les gens, certaines sont fidèles à leur propre croyance et arrivent à cette conclusion, mais même eux ont du mal à pratiquer une vie sans aucun sens. Alors finalement, nous croyons que le monde a un sens et ce n'est que possible que s'il y a une source intelligente, une source, une cause comme Dieu qui derrière tout ça, pour régir nos vies. Alors oui, ça correspond, finalement, Genèse correspond à ce que nous vivons, à ce que nous pratiquons dans notre quotidien. La vie a un sens, il y a une raison, une intelligence derrière tout, et c'est Dieu qui explique ça. Ensuite, voyons l'harmonie de la création. Si on passe au verset suivant, verset 2 dit que la terre était informe et vide, Et puis la suite raconte comment Dieu va d'abord former et ensuite remplir. Donc ces deux mots, informe et vide, deviennent des mots clés pour expliquer la suite du chapitre Genèse. Genèse chapitre 1 bénéficie d'une structure très, très poussée, très agencée, très ordonnancée, avec ces six jours, avec un refrain qui revient souvent. Dieu dit, Dieu appela, Dieu vit que c'était bon. Et puis Dieu dit, Dieu appela, Dieu vit que c'était bon. Genèse 1, le texte même est très structuré, très ordonné, très harmonieux. Et je pense qu'il y a tout un message aussi. L'auteur de Genèse organise son matériel pour montrer que Dieu, l'auteur du monde, organise son matériel, c'est-à-dire l'univers. Regardez ces six jours de création, c'est très structuré, très harmonieux dans la manière que c'est présenté, parce que c'est clairement divisé en deux parties, trois jours et trois jours. Et les premiers trois jours, Dieu crée le cadre, il prend l'informe, il le forme, il le façonne. Les trois premiers jours, c'est Dieu qui crée un cadre. Et les jours suivants, 4, 5, 6, sont Dieu qui remplit le cadre. Donc le cadre est vide et Dieu le remplit. Donc vous voyez ça, en jour 1, il crée la lumière, il sépare avec les ténèbres, il crée le cadre, le principe. Et puis jour 4, c'est là il place le soleil, la lune et les étoiles. En jour 2, il sépare les eaux, il fait une atmosphère en haut, un ciel, et puis il fait les océans en bas. Et puis jour 5, donc le jour parallèle, il remplit le ciel avec les oiseaux et les océans avec des poissons. Et puis jour 3, il crée un cadre, ce cadre c'est la terre sec, donc il sépare l'eau et la terre. Et jour 6, il remplit la terre avec les animaux et l'homme. Donc le résultat, c'est tout le contraire d'un chaos, tout le contraire du néant, tout le contraire du désordre. Le résultat, c'est quelque chose de très harmonieux. Et Genèse 1, le texte lui-même est harmonieux dans ce sens pour nous pousser à voir l'harmonie de la création. Et cette harmonie, cet ordre, cet agencement, cet ordonnancement parfait, là encore, la science de plus en plus confirme l'ordonnancement, l'harmonie incroyable de l'univers. Ça reste, je pense, un des meilleurs arguments de la création, ce qu'ils appellent, les scientifiques appellent ça, la précision fine de l'univers. On n'a pas le temps d'entrer dans tout, mais il y a des valeurs mathématiques, des valeurs scientifiques qui sont réglées tellement bien, tellement parfait pour que l'univers fonctionne. S'il y avait ne serait-ce qu'un léger écart dans certaines distances, par exemple entre le Soleil et la Terre, ou dans des forces physiques, des forces de gravité, si ces chiffres, si ces constants mathématiques étaient un peu différents, rien ne fonctionne. Donc la science, de plus en plus, confirme l'agencement incroyablement précis et ordonné et harmonieux de l'univers pour que tout fonctionne. Et c'est ce que confirme notre texte. D'ailleurs, certains pensent, ils lisent Genèse 1, ils trouvent que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien structuré que ça ressemble plus à de la poésie ou une chanson. C'est vrai qu'il y a des refrains, ces refrains se répètent et c'est comme une chanson, comme un poème, comme un auteur qui cherche à agencer son matériel. Alors c'est vrai que ça pousse certains à interpréter Genèse 1 de manière symbolique, en disant, voilà, c'est plutôt une chanson, c'est plutôt un poème, et donc la chronologie des choses ou le temps n'est pas à prendre littéralement. C'est pas une idée stupide en soi, si on reste à Genèse 1, c'est pas de l'hérésie. Moi-même, je ne reste pas convaincu qu'il faut tout interpréter symboliquement, même s'il y a un langage exalté dans Genèse 1, où Genèse 2 va être encore un peu différent, va être plus dans les détails. mais je reste pas convaincu que même si c'est une espèce de poème, qu'il faut l'interpréter symboliquement. Hein. Dimanche dernier, nous avons chanté des poèmes, nous avons chanté des chansons sur la résurrection. C'est pas pour autant que Jésus, nous croyons que Jésus n'est pas réellement ressuscité ou qu'il est juste symboliquement ressuscité. Un langage harmonieux peut aussi parler des choses vraies et réelles. Pour ce que ça vaut, mon avis, c'est que Dieu a créé les jours, la terre, les cieux et la terre en 6 jours. Je le dis parce que d'autres passages dans la Bible, dans un autre style, où c'est plus terre à terre, d'autres passages l'affirment aussi. Mais ça reste une grande question. Même les chrétiens ne sont pas toujours d'accord sur le sujet. En tout cas, le souci principal de Genèse 1, c'est pas d'aller dans les détails, mais c'est de montrer un univers ordonnancé, harmonieux, un reflet d'un Dieu d'ordre auquel nous pouvons faire confiance. Le but ici, c'est de nous montrer le cosmos. D'ailleurs, le mot cosmos veut dire mettre en ordre, ce qui donne cosmétique. Mesdames, vous avez sorti votre trousse de cosmétique ce matin pour bien ordonnancer, bien agencer votre visage, pour que tout soit parfaitement en place et tout soit parfaitement beau. C'est à quoi ça que servent les cosmétiques, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a pensé avant vous, il l'a fait avant vous avec son univers. Et ça fait partie des joies de vivre, c'est de constater et de jouir de la création qu'il nous a donnée. Il vous est arrivé, je pense, j'espère, d'être dans la nature et de voir montagnes et lacs et arbres et nuages. Et de dire ça, c'est un beau tableau, c'est bien agencé, les couleurs sont bien choisies, et de glorifier Dieu pour ça. Et ce chapitre montre que le but de Dieu dans sa création, c'est que tout vit en harmonie, tout est bon et tout vit en harmonie. La manière qu'il a donné les arbres, les fruits pour nourrir les animaux et l'homme, la manière que tout est agencé, que tout est mis en place, le but, nous voyons, c'est que tout vive dans une harmonie féconde. Et ça aussi, ça nous interpelle, parce que même les non-croyants aspirent à cette harmonie planétaire, même entre l'être humain et la création. Nous aspirons tous à vivre en harmonie. Et cette harmonie que nous recherchons, eh bien, elle s'explique beaucoup mieux avec le récit de Genèse que un récit qui dit que tout est le fruit du chaos, du hasard et des forces non dirigées. Nous savons reconnaître, chacun de nous, la différence entre une cacophonie et une harmonie. Nous savons reconnaître la différence entre quelque chose de cassé et quelque chose de restauré, quelque chose d'entier, quelque chose de sain. Mais cette connaissance, cette capacité de reconnaître entre le monde qui va bien et le monde qui va mal, un monde harmonieux et un monde dissonant, où cette différence, cette capacité de reconnaître la différence ne peut que venir d'un schéma que nous avons ici en Genèse 1. Cette connaissance serait impossible si le chaos et le hasard dirigeaient tout, parce que le hasard n'a pas un avis sur la question si de savoir si le monde sera meilleur sans famine, sans guerre, sans maladie, sans vol. Le hasard n'a aucun avis sur la question. Est-ce que le monde est mieux? Est-ce que le monde serait mieux sans guerre, sans famine, sans maladie, sans vol? Le hasard s'en fiche. Parfois, le hasard a même besoin des guerres, des famines, des maladies et des morts pour faire évoluer son schmilblick. Mais nous ne croyons pas ça. En ce moment, chez moi, il y a un Rubik's Cube qui se promène. Vous avez déjà essayé ça. Donc, je m'amusais avec mon fils de 2 ans, Justin. Il ne connaît pas vraiment ce que c'est qu'un Rubik's Cube. Et donc, je prenais le Rubik's Cube et je défaisais un ou deux côtés. Et puis, je lui donnais pour voir ce qui se passe. Eh bien, il remettait quand c'est un ou deux côtés, il savait y remettre. Un ou deux. Après ça, même moi, j'ai du mal sans l'aide d'Internet. Mais il pouvait remettre quelque chose en lui, reconnaît que l'état fait, l'état harmonieux, l'état et la différence entre quelque chose qui défait. Eh bien, nous le savons, et quelque part ce monde nous savons est comme un Rubik's Cube tout mélangé. Et on reconnaît la différence, quelque chose de défait, de non résolu, et quelque chose de résolu. Et la doctrine de la création biblique, c'est que le monde a commencé en bon état, en état harmonieux, en état fait. Et c'est par la suite qu'il y avait dissonance, qu'il y avait déchirure, qu'il y avait blessure, tout ça nous allons étudier la semaine prochaine. Mais l'état normal, l'état auquel nous aspirons, eh bien ça s'explique parce que le début était bon et que Dieu a tout créé bon, ordonné, harmonieux. Après, les choses se sont gâtées, mais par le péché. Ce n'est pas l'état naturel des choses. Et la bonne nouvelle dans tout ça, même si on constate parfois que le monde va mal et qu'on est loin de tout bon, tout harmonieux, la bonne nouvelle, c'est au moins quelque chose de cassé peut se réparer. Si on était aujourd'hui dans le meilleur des mondes, ce sera déprimant. Mais l'évolution dit qu'aujourd'hui, c'est déjà le meilleur des mondes. Parce que tout est désordonné, tout est dirigé par le hasard. Donc, à cause de la création, c'est Dieu. Et la doctrine biblique, c'est qu'il y avait une harmonie. Et ce que nous aimons, ce que nous aspirons, c'est ce que nous voulons vivre. Avançant avec l'autorité du Créateur, ce qui ressort aussi clairement dans ce texte, Dieu dit, Dieu appela, quand Dieu parle, la chose existe, la chose est faite. Et puis aussi, c'est très important, notamment dans l'Ancien Testament, dans les écrits hébreux, mais aussi partout, c'est le fait de nommer quelqu'un ou le fait de nommer quelque chose, c'est manifester une autorité sur la chose. Et en général, on est tous d'accord qu'un créateur, le créateur dispose des droits sur sa création. C'est encore vrai dans les lois aujourd'hui. Celui qui crée une œuvre artistique, il dispose des droits sur sa création. Et c'est ce que veut affirmer ce texte. Moïse veut affirmer ça aussi. Si Dieu est créateur, il dispose des droits sur sa création. Dans votre maison ou dans votre chambre, vous avez le droit de mettre les choses où vous voulez. Bon, peut-être si vous êtes enfant, vos parents disent mais non, il faut ranger. Mais normalement, dans votre maison, dans votre chambre, vous avez le droit de mettre les choses où vous voulez, comme vous les voulez. Imaginons maintenant qu'un invité vienne chez vous et qu'il commence à déplacer des choses parce que ça ne lui convient pas. Le frigo, non, je ne veux pas là. Moi, je vais mettre votre frigo dans le salon. Et vous dites, mais je ne le veux pas dans mon salon. En plus, il n'y a pas une prise dans mon salon là. Je ne veux le pas. Il y a un emplacement bien. Non, non, je vais le mettre au salon. Vous serez peut-être troublé ou même offensé si la personne insistait à déplacer ou à désordonner les choses que vous avez disposées. Maintenant, vous commencez à voir les implications pour nous, les implications éthiques d'un Dieu créateur. C'est là où ça se corse pour l'homme moderne. Si un Dieu créateur, ça veut dire que nous vivons chez lui. Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies? Est-ce qu'on a le droit de tout déplacer, de tout réagencer, de tout redéfinir? Non, si un Dieu créateur, c'est lui qui dispose des droits et c'est lui qui est l'autorité. C'est son monde. Et finalement, si c'est son monde, ça ne se fait pas de déplacer les bornes, de déplacer les lois, de redéfinir sa création. Quelqu'un n'a pas le droit de dire « Désormais, la nuit s'appelle le jour et le jour s'appelle la nuit. » Ésaïe dit « Malheur à ceux qui appellent ténèbres lumière et lumière ténèbres. » On ne peut pas nous dire « Désormais, un cercle va être carré. » On ne peut pas nous dire « Désormais, 2 plus 2 égale 5. » Désormais, mâle c'est femelle, femelle c'est mâle. Et pourtant, on essaie. Vous voyez, tout est possible sans un Dieu créateur, oui. Mais si nous sommes sa création, si nous vivons dans son monde, c'est sa volonté, c'est sa parole qui compte. Et Moïse veut, c'est ce que Moïse veut enseigner à son peuple aussi. Ce récit va préparer le peuple à recevoir les lois de Dieu. Dieu va donner les lois, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Mais ce peuple va être motivé, va être prêt à obéir les lois de Dieu en reconnaissant qu'il est le Dieu créateur. Le Dieu qui parla tout en existence, eh ben, sa parole compte. C'est l'importance de la parole de Dieu dans ce chapitre ressort fortement. C'est, quand Dieu parle, la chose existe de la même manière. Donc ça veut dire pour nous, nous pouvons prendre à cœur sa parole. Ceci dit, Dieu délègue aussi son autorité, c'est ça qui est incroyable en verset 26, il crée tout, mais l'être humain bénéficie d'un statut à part, où Dieu dit « faisons l'homme à notre image » et qui domine. Donc cette autorité qui est Dieu, eh bien il le délègue en partie à l'homme pour gérer cet univers. Et ça donne une dignité, une responsabilité énorme à l'être humain, mais ça aussi, ça s'est confirmé dans notre conscience, dans notre cœur. L'être humain est à part des animaux. Il y a un désir de dominer, de gérer, de faire fructifier ce monde et cette création. À l'époque, et encore à travers l'histoire, les rois, parfois les dictateurs qui se prenaient pour Dieu, ils aimaient bien créer des statues, ils aiment bien créer des statues de leur image et de les mettre un peu partout. Peut-être vu ça dans le communisme ou dans d'autres pays où le dictateur il va multiplier partout des statues et des images de lui-même parce qu'il se prend pour Dieu. Nebuchadnezzar, par exemple, il mettait une image de lui sur chaque brique qui était utilisée pour construire la ville de Babylone. Chaque brique avait une image de Nebuchadnezzar pour montrer son autorité, pour montrer le fait qu'il était roi. Ou encore, plus récemment, on pratique ça, une pièce d'argent. On va mettre l'image du roi sur toutes les pièces d'argent pour rappeler que c'est lui qui domine, qui règne. Alors, mais en fait, c'est Dieu qui fait ça, sauf qu'il n'utilise pas des pièces d'argent, il n'utilise pas des briques. Sur quoi a-t-il mis son image? Il l'a mis un peu partout. Regardez autour de vous. Il y a l'image de Dieu assis à votre droite et à votre gauche. L'image de Dieu, c'est l'être humain. Et de savoir ça, c'est énorme, c'est immense. C'est ce qui donne encore une dignité, une grandeur, une responsabilité à l'être humain, nous portant l'image de Dieu, pour prendre l'autorité qui nous délègue et régner sur nos vies. Pour bien gérer le monde que Dieu nous a confié, bien sûr, il faut se référer à l'autorité suprême, ne pas être dans l'usurpation de cette autorité, mais dans la confiance, à la dépendance, que voilà, je peux agir d'après le caractère, d'après les lois de Dieu, pour rendre ce monde un meilleur endroit. Et enfin, nous terminons avec la bonté du Créateur, qui ressort clairement dans ce texte. Dieu a créé un monde bon, un monde beau, et c'est le reflet de son caractère, de sa personne. Il est lui-même bon, il est beau, si son univers l'est. Il crée un univers harmonieux, merveilleux, quand vous découvrez, un peu, on l'a chanté ce matin, toutes les beautés de la création. Il nous donne ça, c'est signe de sa bonté. Et ça aussi, c'était très différent des mythologies à l'époque. Ces dieux des mythologies égyptiennes ou de ces premiers récits que nous trouvons dans l'archéologie, ces premiers récits des créations, des origines que nous pouvons trouver dans d'autres mythologies, eh bien, il y avait une multitude de dieux et ces dieux étaient capricieux, ces dieux étaient belliqueux, ces dieux étaient chamailleurs entre eux, ces dieux étaient violents, ces dieux étaient débauchés et... Leurs disputes, leurs affaires, c'est de là où est né, par exemple, le monde ou l'être humain. Mais c'est pas une vision très rassurante de savoir que j'existe parce que des dieux là-haut se sont disputés, se sont pris la tête, et se sont bagarrés, et voilà, et né le monde. En plus, c'était compliqué pour ces hommes-là à cette époque. Encore, on trouve ça dans les religions animistes, avec une multitude de dieux. Des dieux qui ne sont pas bons, des dieux qui sont plutôt cruels, sanguinaires, violents. Il faut apaiser les uns sans fâcher les autres. Il y a le dieu soleil, dieu mer, dieu la santé, dieu de la récolte, dieu de la fertilité, tout ça. Et si on fait un sacrifice à un, l'autre il va être jaloux. Alors comment je fais ça si j'ai besoin de telle chose dans ma vie? C'était une casse-tête. C'était inquiétant pour les gens de vivre. Les dieux n'étaient pas bons. Ici, nous avons un Dieu bon. C'est ce que Moïse rappelle à son peuple. Votre Dieu, le Dieu unique, est un Dieu bon. Vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez, on a un bon Dieu. Il a remplacé le vide et le néant et les ténèbres avec la lumière, l'ordre et la bénédiction. Et ça, c'est une vision exaltante nos vies. Si le monde est un accident, si je suis un accident, si je suis le jouet des forces chaotiques de la nature ou des forces chaotiques des divinités, ben c'est très difficile de vivre dans la paix et dans la reconnaissance. Je vis dans la peur, dans l'insécurité, dans l'inconnu. Je vis dans l'agitation, je vis dans l'insatisfaction, je vis dans le tohu-bohu interne. Mais ce récit termine avec la notion du repos et de la bénédiction. C'est Dieu qui achève tout et qui lui-même se repose. Et ce repos, c'est le repos et la satisfaction d'un artiste qui a achevé son œuvre, qui est content de son œuvre, et qui est satisfait, et qui s'assied, qui dit voilà, c'est super. Et ce repos-là, pour l'instant, on n'a pas tout le message du salut de l'Évangile, mais ce repos-là, plus tard, la Bible va dire ce repos, Dieu nous invite à entrer dans ce repos. Ce septième jour continue toujours, en quelque sorte, où Dieu est là, et on peut entrer dans sa joie, dans son repos, dans cette satisfaction qu'on va trouver, de savoir, voilà, Jésus-Christ est mon Créateur. Je n'ai pas besoin de m'agiter, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, je n'ai pas besoin de créer ma propre identité, je n'ai pas besoin de lutter avec le chaos et les ténèbres de mon cœur, je n'ai pas besoin de créer mon propre salut, je n'ai pas besoin de faire la survie du plus fort, je peux me reposer dans mon Dieu créateur.